C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Madame Guilbeault, bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Madame Guilbeault, la première question que je vais vous poser, j'ai l'impression que des milliers de Montréalais se la posent. Et c'est une question simple au fond, mais est-ce qu'un jour, dans un avenir relativement prévisible, on aura droit à un allègement dans tous ces travaux?
Ça dépend ce qu'on entend par allègement. Je pense que l'impression qu'il y a beaucoup de comptes puis de chantiers partout...
C'est pas une impression, c'est une réalité.
Non, mais c'est ça exact, vous avez raison. Dans le sens que même si on enlevait quelques cônes ou quelques chantiers, je pense que cette impression-là ou ce visuel-là demeurerait pour plusieurs Montréalais qui se promènent et de gens qui viennent ici aussi. Mais surtout quand tu habites ici, tu sais, puis tu vois ça l'année longue, tu te dis bon. Mais ce qu'il faut comprendre de ça, c'est que on n'a pas le choix de faire des chantiers pour des enjeux de sécurité, pour des enjeux de maintien. Imaginez si au lieu de fermer le tunnel Ville-Marie, par exemple, prenons ça ici, là, au centre-ville, ça va être sur 10 ans, le tunnel. Parce que si on l'avait fait plus rapidement, je serais obligée de le fermer plus souvent et de le fermer au complet. Et là, on me dirait, ça n'a pas de sens, on peut pas fermer le tunnel Ville-Marie. Alors, on le fait sur 10 ans. Fait qu'il va y avoir sur 10 ans des entraves ponctuelles. L'hiver, c'est différent de l'été, là. Mais ça, c'est un exemple. Le tunnel Hippolyte-La Fontaine, la même chose. Ça va durer 3 ans. J'aurais pu le faire en quelques mois seulement si je l'avais fermé au complet, mais on aurait dit c'est pas possible. Alors, il faut trouver l'équilibre entre la réalité de la vraie vie où il faut que les artères demeurent accessibles au moins un minimum et le fait que ça étire les chantiers. Donc, ça étire l'espèce, c'est ça, de feeling visuel d'avoir toujours des comptes.
Mais c'est ça, je reviens là-dessus, Mme Guilbeault, c'est pas un feeling.
C'est une lecture visuelle.
Parce que si on a l'impression que le gouvernement pense que c'est un feeling, quand on est pris dedans quotidiennement, nous, on le sait que c'est pas un feeling.
Non,
on
vous avez raison.
On est pris dans les embouteillages.
Oui, c'est ça. Mais ce que je dis, c'est que si j'allais plus vite dans mes chantiers, il durerait moins longtemps, mais on pourrait plus utiliser les structures. Et ça serait pas réaliste. Si je ferme le tunnel Ville-Marie, qu'est-ce qu'on fait? Si je ferme le tunnel Hippolyte au complet, on le fait des fois, vous savez, la fin de semaine, parce que ici à Montréal, on n'a pas le choix de faire les travaux le soir, la nuit, la fin de semaine, parce que les jours ouvrables, ça n'a pas de bon sens. Donc, c'est l'équilibre de ça. Et moi, je vous parle pour moi, mes chantiers, mais il y a plusieurs chantiers qui appartiennent à la ville de Montréal aussi. Et pas seulement pour des routes ou des structures. Tout le résidentiel, la réfection de bâtiments, les chantiers privés, c'est des permis qui sont donnés par la Ville de Montréal. Ça s'ajoute, parce que quand je me promène à pied au centre-ville, j'ai pas d'enjeu de circulation routière, je suis à pied. Mais il y a quand même, tu sais, j'étais au centre-ville, je me promenais hier soir là, sur Mansfield, et là, il y avait les corridors piétons aménagés avec des grosses glissières, avec des cônes, parce qu'il y a une façade d'immeuble qui est en réparation. Puis c'est correct, probablement que c'est nécessaire, mais ça ajoute à la fluidité routière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand je vous dis une impression, elle est fondée, je suis d'accord avec vous, elle est factuelle, mais c'est un ensemble d'éléments qui fait qu'on a l'impression d'être envahi dans les chantiers, qui sont tous par ailleurs individuellement nécessaires. Mais le message que je veux passer, c'est que les 51 chantiers qu'on va avoir cet été, le routier, là, moi je suis dans le routier seulement, ils sont déjà le fruit d'une priorisation, d'un filtrage, d'une coordination. J'en aurais bien plus de travaux à faire, mais là, c'est ce qu'on peut faire, le strict minimum pour dire on avance, on entretient nos structures, on évite des problèmes. Et on avance, et un jour, on va en venir à bout.
Bon, vous souhaitez faire un effort pour que la coordination entre les différentes, je vais les appeler l'expression consacrée, les parties prenantes, le ministère des Transports, la Ville de Montréal, les autres municipalités qui sont impliquées, les grands entrepreneurs, pour que ça s'améliore. Mais ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, que ça prend une meilleure coordination. On l'attend encore. Vous dites que vous en faites comme un défi presque personnel pour l'année. Qu'est-ce qui vous fait croire que cette année, ça pourrait fonctionner là où les échecs ont été répétés au cours des dernières années?
Mais j'en fais un défi pas seulement personnel, c'est un défi avec les partenaires, vous dites partenaires. Il y a plusieurs mondes qui sont responsables de plusieurs chantiers. Faut dire, ce dont je m'aperçois, c'est que 2023 aussi, c'est la première vraie année, là, je vous dirais, de que le tourisme a repris au complet, que la vraie vie, les gens se déplacent. Il y a encore beaucoup de télétravail, mais tu sais, on a repris nos activités. Parce que pendant la pandémie, le trafic, la congestion, on parlait pas de ça. On avait bien d'autres problèmes, puis il n'y en avait plus de problèmes de trafic. Fait que là, c'est comme si ça revient, et là, ça nous frappe cette année, là, tu sais, les chantiers, tout ça. Donc, au-delà de la priorisation des chantiers, je pense que la coordination, elle se fait déjà très bien. J'ai plein de sous-comités à Mobilité Montréal là, qui font du travail pour les entraves de fin de semaine, pour des comités techniques et tout. Je pense qu'on a un défi de mieux communiquer, de mieux faire comprendre aux gens ce travail-là qui se fait, de mieux l'expliquer. Puis j'étais avec les partenaires ce matin, la Chambre de commerce, Tourisme Montréal, l'aéroport, l'industrie du camionnage. Il y avait aussi des gens du port de Montréal. Alors, toutes ces personnes-là sont impactées aussi, ces organisations-là sont impactées, la clientèle d'affaires, les gens d'affaires, les gens qui viennent faire de la business à Montréal, les touristes qui viennent à Montréal, les gens qui viennent pour les grands événements, ça a un impact sur eux. Donc, il faut que ces gens-là comprennent le travail qui se fait, fassent partie de ça. Moi, je me suis engagée à ce qu'on se rencontre. Là, on me dit avant, ça faisait 5 ans qu'on s'était pas rencontrés. Là, moi, j'arrive,
on se rencontre.
C'est extraordinaire.
Je prends la balle au bon. Là, la presse qui révélait, c'était l'automne dernier, que le comité directeur de mobilité Montréal, alors si on avait mis ça sur pied en 2011, si ma mémoire est bonne, c'était réunis une seule fois en 5 ans.
Oui, je pense que c'était en 2018. Ouais. Avec la pandémie, comme je vous dis, je pense que le focus a été mis ailleurs aussi pour des raisons évidentes. Mais alors là, moi, puis le comité directeur, quand tu regardes ça, c'est le ministre des Transports avec la mairesse de Montréal. Donc oui, c'est important, mais tu sais, moi, la mairesse et moi, on se parle déjà souvent. Donc moi, je l'ai élargi ce matin, c'est moi qui ai convoqué cette rencontre-là et j'ai invité ces personnes-là parce que, comme je vous dis, il faut parler à nos milieux d'affaires, faut parler aussi, puis tu sais, il faut parler à nos citoyens. Donc il faut faire cet exercice-là de se réunir et après ça, ben expliquer aux gens à quel endroit ils peuvent trouver l'information. Quand on dit aux gens, planifiez vos déplacements, le 5-1, je sais que le 5-1 fait pas l'unanimité et c'est pas parfait, mais puis d'ailleurs, de toute façon, l'année prochaine, il va falloir le changer de plateforme. Fait qu'entre temps, je vais travailler pour l'améliorer. Mais donc, le 5-1-1, quand même, tu peux télécharger l'application. Il y a environ 80 000 personnes en ce moment qui ont l'application 5-1-1, selon qu'on me dit. Effectivement, on est 4.1 dans la CMM. Donc, moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de gens qui le téléchargent. Et dans le 5-1-1, tu peux t'abonner à ta région et aux routes. Tu sais, mettons, moi, si j'habite dans tel secteur, l'autoroute 20, la 520, tout ça, tu peux t'abonner à tes artères. Et quand il y a un chantier, tu reçois la notification. Parce qu'il faut pas que les gens aient besoin de courir après l'information. C'est ça le problème. Donc, sur le site de Mobilité Montréal, il y a tous les 51 chantiers dont je vous parle, que j'ai pas le temps de lister ici, là. Et sur le 5-1-1, tu peux t'abonner et recevoir les notifications. Fait que t'as pas besoin de t'abonner, tu reçois ça, là, passivement. T'es chez vous, t'as une notification sur ton cellulaire. Il y a un chantier en fin de semaine dans le tunnel. Il y a le chantier, le pont de l'île. Tous les chantiers vont être là. Sur la 520, j'en ai un chantier majeur, là, qui s'en vient sur, qui a cours sur la 520. Alors donc, c'est ça.
Vous avez mentionné ça, l'utilisation du 5-1-1, notamment il y a une dizaine de jours, là, quand il y a eu cet embouteillage monstre en direction de l'aéroport Montréal-Trudeau. Là, il y a des gens qui ont passé des heures dans le trafic. Oui. Vous avez dit à ce moment-là, Mme Guilbeault, il faut voir que les gens prennent l'habitude de consulter le 5-1-1, de mieux s'informer. Puis ça va, mais quand on voit ce qui s'est passé il y a à peine une dizaine de jours, et là qu'on vous entend aujourd'hui nous promettre qu'on va mieux coordonner ça, il me semble que vous auriez une chance pour ce gros projet-là d'éviter le vrai désastre que ça a été. Hein?
Ouais, ben la fin de semaine dont vous parlez, ça fait 2 fins de semaine de ça, tu sais, des entraves majeures et des chantiers, puis ça c'était autour de l'échangeur Saint-Pierre. L'échangeur Saint-Pierre, il y en a souvent à toutes les fins de semaine. Voyons, en fin de semaine, là, dans 2 jours, il va y avoir aussi des travaux autour de l'échangeur Saint-Pierre. Il faut l'entretenir parce que lui aussi est très vieillissant. Donc, et d'habitude, on en entend peu ou pas parler, dans le sens que oui, il y a une lourdeur dans le trafic, mais ça se fait relativement bien. Cette fin de semaine-là, et j'ai fait mon mea culpa par rapport à ça, il y a eu comme des bugs, si vous me passez l'expression, là. Et sur Waze, parce que, tu sais, le gouvernement du Québec aura pas la prétention de créer une nouvelle application qui va rivaliser avec Waze pas avec Google Maps. On s'entend que les gens, ils vont voir sur Waze, sur Google Maps, puis c'est bien correct. Donc, mais là, il y a eu comme un bug où au moment où sur Waze et sur les applis, on se rendait compte qu'il y avait ce bouchon-là, ce chantier-là, il était trop tard. Les gens étaient déjà pris dedans, ils pouvaient pas reculer. Fait que c'est là qu'on a vu des gens rouler avec leurs valises à pied sur les accotements. Moi, honnêtement, ça n'a aucun sens. Là, j'ai dit, tu sais, puis ça, c'est un chantier à moi, je le prends, là, c'est sur notre réseau supérieur. Mais il y a eu des bugs là-dedans. Il y a eu, en tout cas, je sais pas, là, mais je prends la responsabilité et nous, on transmet toutes nos informations sur les chantiers, on les transmet, nous, à Google pour qu'eux puissent en tenir compte dans leurs algorithmes et que, justement, quand tu vas sur les applis, tu es capable de savoir par quel... Parce que c'est une chose de t'informer du chantier, mais après ça, tu veux savoir par où passer. Par rapport, tu sais, du fait qu'il y a un chantier.
Ça prend un plan B.
C'est ça. Alors moi, mon 5-1-1, Mobilité Montréal, on a la liste des chantiers, mais après ça, les applis standards que les gens sont habitués d'utiliser, normalement, ça te donne les alternatives. Et il y a aussi toutes les mesures que je finance de transport collectif. Je finance beaucoup de lignes d'autobus, un nouveau train, un train supplémentaire sur la ligne jaune à Montréal pour le tunnel Hippolyte-Lafontaine, pont de l'Île-aux-Tourtes, là, tu sais, beaucoup, il y a de la congestion, pont de l'Île-aux-Tourtes aux abords, alors... Je finance une centaine de départs d'autobus de plus, puis j'ai des voies réservées. Alors donc, il y a beaucoup de mesures qui sont en place alternatives, les navettes fluviales qui sont revenues aussi, les navettes fluviales, pour ceux qui l'ont pas essayé, sûr, ça dépend où tu vas, d'où tu viens et où tu vas, mais les navettes fluviales, très intéressant, de plus en plus populaire, et quand il fait beau, c'est agréable en plus.
Vous savez, Mme Guilbeault, il y a des gens qui pensent, et j'aimerais connaître votre point de vue là-dessus, qu'on a tendance à, pas tendance, mais on est obligé de refaire nos routes à intervalles trop rapprochés. Comme si la première construction avait été plus ou moins bien faite. Et puis là, 5 ans, 10 ans plus tard, oups, faut ouvrir un nouveau chantier. Est-ce que vous avez cette impression-là?
Qu'il faut refaire plus souvent l'asphalte, ouais, vous voulez dire, là, sur la qualité de l'asphalte. Mais ça, c'est une question que j'ai posée en arrivant, parce que c'est vrai que, puis je veux pas revenir sur les années antérieures, mais tu sais, dans le temps de la commission Charbonneau, puis tout ça, bon, les travaux d'asphaltage avec une espèce d'obsolescence programmée, voilà, où tu sais que tu vas la refaire aux 6, 7 ans. Et ce qu'on me dit, c'est que ça a beaucoup évolué. J'ai visité, moi, mon laboratoire de chaussée. Et donc, normalement, la qualité, elle est bonne. Là où on en est en 2023, puis ça, j'en parle pas souvent, là, peut-être je n'ai jamais parlé, mais j'essaie de voir avec mon ministère aussi la part de matériaux recyclés qu'on peut mettre dans l'asphalte. Parce que dans l'ère du temps, avec la lutte, tout le développement durable et tout ça, on a beaucoup de résidus qui pourraient donner lieu à de l'asphalte recyclé, qui pourraient être intégrés dans de l'asphalte des matériaux recyclés, qui seraient bons pour l'environnement, qui coûtent moins cher. On en a, de toute façon, on sait pas quoi faire avec. Mais là, vous voyez, c'est un bon exemple. Moi, on me dit on peut pas aller jusqu'à plus que 10 % dépendant réfection nouvelle route, 20 %. On me dit qu'aux États-Unis, je pense qu'ils sont à 30 %. Il y a des places où ils en autorisent plus que d'autres. Ça dépend du climat. Ici, on est plus nordique. Alors, faut pas qu'il y ait une usure prématurée, parce que je vais me faire chialer avec raison que là, faut les refaire plus rapidement. Mais en tout cas, moi, j'aimerais ça qu'on ait le plus de matériaux recyclés possible pour des raisons évidentes, mais on trouve l'équilibre. Alors, mais c'est ça. J'ai rencontré une entreprise dernièrement qui est dans un autre tout nouveau processus, là, où, en tout cas, on regarde ça.
Vous regardez ça.
C'est parce qu'on fait tellement d'affaires, puis je veux pas prendre tout le temps, mais j'aurais beaucoup de choses à dire.
Il nous reste une poignée de secondes, Mme Guilbeault. Est-ce qu'on va pouvoir aller de la rive sud vers Montréal dans le REM le 1er septembre?
1er septembre, normalement, oui. Là, on a repoussé un petit peu. C'était supposé être, en tout cas, fin de mai-juin. Mais ça, là, tu sais, puis je sais que c'est tannant, puis à chaque fois qu'on est obligé de repousser une date, mais quand le REM va entrer en fonction, ça va être une nouvelle, complètement un nouveau visage à la mobilité au Québec. Là. Ça va être notre premier REM, sans chauffeur, précis, techno, 20 heures sur 24. J'ai hâte. Et ensuite de ça, on aura le reste du REM en 2024. Puis tu sais, en passant, quand le REM va être en fonction, dans le REM de l'Ouest, là, tu sais, ça va amener toute une clientèle à pouvoir utiliser le REM. Ça va aller vite, ça va être efficace.
C'est sûr.
Et mais ça, là, ça va changer un peu le mood
beaucoup,
en ce moment.
Mais
marasme de chantier.
Quand même votre hésitation quand je parle du 1er septembre.
Ben moi,
je
fais tout pour que ce soit prêt. Au 1er septembre, normalement, oui, mais c'est la caisse de dépôt qui gère le REM. Il faut s'assurer que les essais sont concluants, parce que si on va aller trop vite, vous avez vu ce qui s'est passé avec le tramway à Ottawa?
Oui.
Si on va aller trop vite,
on veut pas
et que
ça.
Là, il y a un bris, qu'est-ce que vous pensez? Je vais revenir ici, vous allez me dire, est-ce que vous êtes allé trop vite, Mme Guilbeault?
C'est vrai.
Alors, donc, on trouve l'équilibre, mais j'ai très hâte. Très, très hâte.
Geneviève Guilbeault, vous êtes ministre du Transport. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
En mars dernier, le ministre du Travail, Jean Boulet, a présenté devant l'Assemblée nationale son projet de loi 19 sur l'encadrement du travail des enfants. Eh bien, ce projet de loi a été voté aujourd'hui et c'est maintenant une loi. Alors, on reçoit le ministre Boulet pour nous en expliquer les principaux paramètres. Monsieur Boulet, bonjour.
Oui, bonjour. Comment allez-vous, Philippe?
Ça va très bien. J'espère que c'est la même chose pour vous. Monsieur Boulet, dites-moi, une des mesures les plus importantes de votre projet de loi, là, c'est qu'à compter de maintenant, en fait, la date d'entrée en vigueur, je pense, reste à déterminer, mais un enfant qui a moins de 14 ans et moins, en fait, ne pourra plus travailler.
Oui, effectivement. C'est un âge minimal pour travailler, donc c'est 14 ans.
À 14 ans, on peut travailler?
Oui, à 14 ans, on peut travailler. Okay. Mais en bas de 14 ans, il y a quand même un certain nombre d'exceptions qui constituent en fait des prolongements de la vie familiale ou scolaire.
Comme?
Il y a comme, par exemple, un enfant qui travaille dans la création ou dans la production artistique, qui garde des enfants, qui fait de l'aide aux devoirs. Un enfant qui travaille dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés. Par exemple, il y a les organismes à but non lucratif à vocation sociale ou communautaire, comme les colonies de vacances, les organismes de loisirs. Il y a aussi les organismes sportifs à but non lucratif, quand t'aides ou tu soutiens un moniteur, un entraîneur ou un marqueur. Puis enfin, le dernier, c'est une exception qu'on a ajoutée lors de l'étude détaillée. C'est dans une entreprise agricole qui compte moins de 10 salariés. Quand tu prends soin des animaux, tu entretiens le sol ou tu récoltes des fruits ou des légumes, mais il faut que ce soit des travaux manuels légers, puis c'est 12 et 13 ans seulement dans cette dernière exception-là, puis un certain nombre d'exceptions que ça doit se faire sous la supervision d'un adulte. Donc, il y a peu d'exceptions, donc l'interdiction est importante, mais il y a aussi le nombre d'heures maximum durant l'année scolaire. Là, on exclut les vacances.
Mais juste avant, M. Boulay, je vous interromps un moment. Je vous écoute, par exemple, expliquer que pour le travail sur pour récolter des fruits et des légumes, par exemple, là, il y a un certain nombre de normes qui doivent être respectées, les travaux doivent être légers et tout ça. Qui va vérifier ça?
Ben, écoutez, il y a une aide financière qui va être disponible, notamment pour l'Union des producteurs agricoles, pour faire de la sensibilisation, de la formation, puis de l'information. Pour, tu sais, c'est une nouvelle loi avec des nouvelles obligations, puis il va falloir expliquer aux entreprises agricoles qui sont visées par l'exception qu'est-ce qu'on doit entendre par un travail léger. Donc adapté à la capacité physique, pas exposé à des matières dangereuses comme le monoxyde de carbone, les pesticides. Puis quand on fait du travail, ben faut pas que ce soit avec une récolteuse mécanique, mais il va y avoir beaucoup de travail.
Il va y avoir de la pédagogie à faire, là.
Exactement, puis ça va se faire.
Bon, vous avez les sous pour le faire, vous avez suffisamment d'argent pour justement investir de façon à ce que ces choses-là aboutissent?
Oui, on a déjà beaucoup de ressources. On a amorcé d'ailleurs une tournée des milieux scolaires et des milieux de travail pour faire des ateliers de formation. On a ce qu'on appelle la stratégie jeunesse avec Kinga. On se promène un peu partout, puis on s'assure que cette loi-là va être bien connue puis bien intégrée dans les milieux de travail, qu'on analyse les risques et qu'on s'assure de les éliminer le plus possible.
Monsieur Boulay, dites-moi, est-ce que le problème était si important au Québec pour qu'on légifère pour le travail, justement, des enfants de moins de 14 ans?
Mon Dieu, Philippe, de 2017 à 2022, il y a eu une augmentation de 640% des accidents de travail chez les 14 ans et moins.
Ah, oui.
Puis chez les 16 ans et moins, il y a eu une augmentation de 80%. Donc, on le vit, là. Il y a un déficit de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Et c'est ça qui nous a motivés à faire une loi qui encadre mieux le travail des enfants. Puis il y a eu une enquête sur la santé psychologique des jeunes du secondaire, puis il y a une augmentation aussi importante du nombre de jeunes qui travaillent. Puis à peu près 20% secondaire 1 qui font plus que 15 heures par semaine. Puis en haut de 16 heures, c'est démontré par les études, par la littérature, qu'il y a un impact sur la performance et l'indice de décrochage scolaire augmente. Plus parce que jusqu'à un certain nombre d'heures, c'est même bénéfique de travailler pour l'estime de soi, pour le développement des compétences.
Avoir un peu d'argent de poche aussi, l'autonomie, tout ça.
Exactement. Mmh. Mais au-delà de... Dans notre loi, là, c'est 17 heures par semaine le maximum pendant les périodes où il y a de l'école, dont 10 heures du lundi au vendredi. Ça fait abstraction, encore une fois, des vacances, des congés puis des périodes de relâche. Mais il faut s'assurer de protéger non seulement la sécurité puis l'intégrité physique et psychologique des enfants, mais aussi permettre leur persévérance puis leur réussite éducative.
Alors, ce maximum de 17 heures, Monsieur Boulay, par semaine, là, pendant la période scolaire, c'est pour les enfants qui sont obligés d'aller à l'école, donc les enfants jusqu'à 16 ans.
Exactement. Vous avez totalement raison. Dans la loi sur l'instruction publique au Québec, tu es obligé d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Donc, ça s'applique à eux.
Donc, les enfants qui ont 17 ans et plus, là, 17 ans, ou qui, bon, 18 ans, ce sont des adultes, mais des enfants de 17 ans, au fin de votre loi, à quelque part, ils sont considérés comme des adultes.
Oui, tout à fait. Bon. Puis dans le code civil, tu es considéré comme une personne majeure à partir de 14 ans, là, au fin de l'emploi. Mais ici, comme tu es obligé d'aller à l'école, c'est jusqu'à 16 ans, puis à 17 ans, ben ça s'applique pas.
Il y a eu certaines réserves qui ont été manifestées par des gens de l'entreprise, du milieu des affaires, quand le projet de loi a été déposé. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à calmer les appréhensions?
Oui, parce que en amont, j'ai demandé au comité consultatif Travail et main-d'œuvre, où sont les associations patronales puis les centrales syndicales, de se pencher sur la question puis de me faire des recommandations Ils m'ont présenté un rapport le 8 décembre dernier avec un fort consensus sur l'âge de 14 ans, sur le 17 heures par semaine, dont 10 heures du lundi au vendredi. Ce consensus-là, il m'a guidé là, du début à la fin. Puis j'ai respecté ce consensus-là, j'ai consulté. C'est sûr qu'il y a des secteurs qui sont plus affectés puis qui sont moins satisfaits. Mais en même temps, la pénurie de main-d'œuvre, faut pas régler ça sur le dos des enfants qui ont besoin d'aller à l'école, qui ont pas besoin de l'anxiété puis la détresse que le trop grand nombre d'heures de travail peut engendrer.
Quand j'étais jeune, moi, M. Boulay, là, en bas de 14 ans, je marquais des matchs de baseball pour gagner des sous. Je travaillais au parc. Ça, je pourrais continuer ça si j'avais encore 14 ans aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème avec
si
ça.
Si vous êtes en aide et qu'il y a une supervision, s'il y a un adulte qui n'est pas loin, qui s'assure que ce soit bien fait, oui, ça fait partie des exceptions en bas de 14 ans.
Est-ce que votre loi a été adoptée à l'unanimité?
À l'unanimité. Puis je suis bien fier de ça, Philippe. Je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a un enjeu qui est humain, social, économique, puis tout le monde c'est une adoption unanime, puis ce sera sanctionné bientôt. Puis l'âge de 14 ans, ça va entrer en vigueur dans les 30 jours de la date de sanction, puis les limites de 17 et 10 heures, ça va entrer en vigueur le 1er septembre prochain.
Donc, le 1er septembre, théoriquement, là, tout sera en opération.
Oui, tout à fait.
Jean Boulay, vous êtes ministre du Travail du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci, Philippe. Au plaisir. À bientôt.
Bonne journée. À une prochaine. Début en commission parlementaire aujourd'hui là, de l'étude du projet de loi 23 sur la réforme qui donne notamment au ministre de l'Éducation le pouvoir d'annuler les décisions des centres de services scolaires du Québec, de nommer leurs directeurs généraux et d'avoir son mot à dire sur la formation continue des enseignants. Alors au cours des prochains jours, de différentes associations, syndicats, organismes, des experts aussi, viendront déposer leurs mémoires et proposeront leurs solutions, leurs remarques. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, a participé à la journée d'aujourd'hui. Il est avec nous. Monsieur Prévost, bonjour.
Bonjour, Monsieur Quentin.
Monsieur Prévost, dites-moi, la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, on se situe où par rapport à la réforme Drainville?
Ben, écoutez, nous, on accueille quand même assez positivement le projet de loi 23, mais quand même avec certaines nuances là, qui sont importantes, là. Entre autres sur un mécanisme de suivi et les pouvoirs du ministre là, qui vont trop loin pour nous.
Pourquoi vont-ils trop loin, à votre avis?
Ben, nous, on est en faveur que le ministre puisse nommer les futures directions générales. On est en faveur qu'il puisse discuter avec eux, qu'il les questionne, qu'il puisse les recadrer s'il y avait des choses, mais qu'il se base sur les politiques existantes et sur la loi de l'instruction publique déjà existante. S'il se base sur des choses là, très, très bien qui sont législatives, on n'a pas de problème. Mais dans le projet de loi, on peut lire que, bon, ça peut aller jusqu'à la satisfaction ou non du ministre. Là, nous, on veut pas aller dans ce sens-là. Là. Je pense que c'est pas le rôle du ministre là, de commencer à faire de la micro-gestion auprès des centres de services, des directions générales. Là. Nous, on ne va pas jusqu'à là.
Ouais, et je dois avouer que moi, je suis un petit peu surpris quand j'entends le ministre Drainville là, dire que ce pouvoir-là, il espère ne pas l'avoir à l'utiliser. Il dit que ce serait vraiment dans une perspective assez grave que je le ferais. Mais il me semble que si on est prêt à accorder un pouvoir comme celui-là, il faudrait l'encadrer, mais de façon très, très sérieuse pour justement qu'une décision ne se prenne pas. Là, je vais traduire un peu ce que vous vouliez peut-être dire un peu à la face du client, là.
Oui, mais tout à fait, tout à fait. On doit se baser sur nos politiques, nos règles, non pas sur des impressions ou un coup de tête ou je suis allé visiter des écoles, j'ai entendu ça. Non, tu sais, ça se situe pas là. On doit s'informer, qu'ils posent des questions, qu'ils puissent voir avec les directions générales, tout à fait. Puis s'il y a des directions générales qui ne respectent pas les règles, parce que ça existe, malheureusement, c'est des cas d'espèce, là. C'est loin d'être une majorité. La majorité respecte bien les règles, mais il y en a malheureusement qui ne les respectent pas. Et là, je pense que c'est le rôle d'un ministre de recadrer ces directions générales-là.
Mais d'un autre côté, le ministre n'est pas toujours bien informé. On l'a bien vu là, dans le cas des maternelles 4 ans dans la région de Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, tout ça, là, quand tout à coup le ministre n'était pas content des décisions qui avaient été prises, voulait remplacer quelqu'un, puis finalement il était obligé de présenter ses excuses parce qu'il a constaté qu'il n'avait pas mesuré l'ampleur de la situation.
Non, tout à fait. Dans ce cas précis-là, faut savoir que l'orientation qui avait été prise par le centre de service avait été faite en collaboration avec l'ensemble du personnel, les enseignants, les directions d'école, les parents. Il y avait vraiment eu une analyse approfondie de la situation avant de prendre ce type de décision-là. Donc, oui, c'est vous donner un exemple concret de ce qu'on ne souhaite pas.
Gros changement, grosse résistance. C'est ce que le ministre Drainville a dit tantôt. On a entendu l'extrait au bulletin de nouvelles que nous a proposé Valérie Leboeuf. Mais il y a beaucoup de gens, notamment des syndicats, qui disent, écoutez, on n'a pas besoin de ça à l'heure actuelle. Le problème dans notre réseau scolaire, là, c'est pas les structures, c'est pas la gouvernance. Non, le problème, carrément, c'est la pénurie d'enseignants. On manque d'enseignants et ça va être encore la même chose à la rentrée scolaire de l'automne prochain. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture syndicale?
Bien, je vous dirais que sur l'aspect de la pénurie, est-ce que c'est la problématique la plus criante dans le réseau présentement? La réponse est oui. Maintenant, il y a quand même des choses de positives dans ce projet de loi-là. Quand on parle d'un encadrement au niveau de la formation continue de l'ensemble du personnel dans les écoles. Nous, on est tout à fait en faveur de ça. De l'enseignement à distance dans des cas bien spécifiques, on est en faveur de ça aussi. Il y a des élèves qui n'ont pas eu de service cette année parce qu'il n'y avait pas d'enseignants en classe. Est-ce qu'un enseignant qui est dans un village voisin, une ville voisine, qui pendant qu'il donne son cours peut être filmé puis transmettre à une autre classe en virtuel en même temps? C'est pas l'idéal, on en est bien conscient. L'idéal serait d'avoir des enseignants qualifiés dans toutes nos classes, mais on ne vit pas avec ça. Donc, est-ce que nos élèves, on doit les priver ou leur donner un service autre? Mais par l'enseignement à distance, on voit oui, et ça, c'est pour la réussite de nos élèves. Donc, il y a quand même des aspects positifs dans le projet de loi. Bon, il y a des choses qu'on veut recadrer, bien entendu, mais c'est pas... Tout n'est pas acheté du revers de la main, loin de là.
Monsieur Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Un autre axe important de ce projet de loi, c'est la création d'un institut national d'excellence en éducation. Ça semble faire un petit peu plus l'unanimité. Encore une fois, peut-être que les syndicats ont des réserves, mais de façon générale, on le sait, ça se fait en santé, ça donne des résultats positifs, ça permet d'avoir plus d'informations. Vous, est-ce que vous pensez que cet aspect-là pourrait susciter une certaine unanimité, là, quand on aura terminé les études en commission parlementaire?
On pense que oui, que l'Institut pourrait jouer un rôle important sur aller chercher l'ensemble des recherches disponibles, aller chercher les divers courants de pensée, les diverses formes de recherche. Mais il faut que cet institut-là ait une certaine indépendance. Elle doit être diversifiée dans son approche. Elle doit faire le tour de tout ce qui peut être offert comme pratique intéressante pour nos enseignants. Mais elle ne doit pas servir au ministre de l'Éducation pour passer par l'Institut pour imposer des courants pédagogiques. Si c'est ça le but, ben, on l'a exprimé en commission parlementaire tantôt, on n'est pas en faveur de ça, mais si l'Institut est là, elle est indépendante, elle l'offre, ben nous, comme direction d'école, les enseignants pourront aller s'informer de tout ce qui est offert, puis pour nous, c'est effectivement très positif.
Oui, parce qu'il me semble que ça, c'est vraiment une voie de passage incontournable. Si on veut améliorer notre système d'éducation, il faut qu'on soit au courant des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent pas, des besoins un peu partout, des meilleures idées partout dans le monde. T'sais, il me semble que souvent, à ce micro ou à d'autres, à la station, on fait des entrevues avec des gens qui reviennent de séjours en Europe du Nord, sont allés en Suède, sont allés en Finlande, les gens reviennent avec plein d'idées, mais on dirait qu'il n'y a aucun endroit où ces idées-là puissent atterrir au Québec de façon cohérente, entrer dans la machine puis être étudiées.
Oui, puis pour nous, l'Institut sera une porte d'entrée importante à ce niveau-là pour aller chercher. Puis oui, vous avez tout à fait raison, ça fait partie de nous, comme direction d'école, comme on doit être en formation continue. On entend nos classes sont de plus en plus difficiles et c'est vrai. Est-ce que les jeunes ont changé? Oui. Mais pour faire face à tous ces changements-là, ben ça demande de changer aussi certaines approches qu'on a avec les jeunes. Ça veut pas dire qu'il faut tout remettre en question. C'est pas là la question. Faut pas imposer aux enseignants là non plus. Mais en même temps, je pense qu'il faut que les outils qui sont disponibles, ben puissent être offerts Et les enseignants verront si ça pourrait être important pour eux.
Mais vous savez, M. Prévost, je comprends un peu les gens qui disent « Oui, c'est bien beau discuter structure, mais il y a tellement des problèmes concrets sur le terrain. » Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le dossier dans la presse en fin de semaine sous la plume de Marie-Ève Fournier, « Qu'est-ce qui cloche avec nos enfants? » où on relatait des épisodes absolument consternants dans des écoles. Il y a de plus en plus d'enfants qui ont besoin de plans d'intervention. Les directions d'école sont débordées. On racontait ce fait que j'ai trouvé absolument ahurissant où les policiers de Saint-Jérôme ont été obligés d'intervenir à 5 reprises dans des établissements scolaires primaires au cours de la dernière année. Il y a des sacrés problèmes dans notre réseau scolaire.
Ah oui, tout à fait. Oui, j'ai pris connaissance de l'article et ça reflète exactement ce que j'entends des directions d'école qui sont sur le terrain présentement. C'est de plus en plus difficile. Les comportements de nos élèves sont très excessifs. Et comme école, nous, on a un devoir, bien entendu, puis on va faire tout ce qu'on peut dans notre mission éducative pour faire réussir ces élèves-là. Puis autant au niveau, on parle de réussite éducative, mais pédagogique, mais autant aussi au niveau du comportement. Mais on n'y arrivera pas seul, M. Quentin, si les parents ne nous soutiennent pas, si on ne fait pas ça en équipe, tout le monde ensemble. Ça va devenir excessivement difficile de changer les choses.
Nicolas Prévost, vous êtes président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie. Bonne fin de journée.
Bonne journée. Avez-vous déjà ragé parce que vous avez acheté un bien de consommation que vous avez payé très, très cher? Un four à micro-ondes, une laveuse, une sécheuse, un frigo, et puis 2-3 ans après, les problèmes sont tels avec votre appareil que vous êtes obligé de le changer et qu'il n'est plus sous garantie. Et ça vient très, très cher. Personnellement, j'ignore combien j'ai acheté de four à micro-ondes dans les dernières années, mais je pense que j'aurais pas assez des doigts d'une main pour les compter. Alors, Simon-Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, a déposé un projet de loi aujourd'hui pour mettre un terme à l'obsolescence programmée sur certains biens de consommation. La loi qui prévoit des modifications à la loi sur la protection du consommateur, elle sera modifiée pour y inclure, et là je cite, une garantie légale de bon fonctionnement pour certains biens neufs couramment utilisés, donc une protection additionnelle pour tous les consommateurs. J'en parle avec Laurence Marget, qui est directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Madame Marget, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Quentin.
Madame Marget, ça fait longtemps que votre coalition et des milliers de citoyens aussi attendaient cette loi.
Effectivement, en tout cas, un dépôt de projet de loi avec lequel on pourra discuter tout à fait avec le gouvernement lors des discussions publiques parlementaires.
Bon, expliquez-nous c'est quoi l'obsolescence programmée.
L'obsolescence programmée, c'est une pratique commerciale, on pourrait dire déloyale. Elle est assez difficile à définir. C'est de dire qu'effectivement, c'est tout procédé en fait qui sont mis en œuvre dans l'élaboration d'un produit pour réduire sa durée de vie.
Et est-ce qu'on est capable de démontrer que c'est fait sciemment par certains fabricants?
C'est très dur de le démontrer, mais c'est bien qu'on l'interdise, par exemple. Mais c'est vrai que c'est très bien de le mettre dans un projet de loi. Ce qui est important, c'est surtout la réparabilité, de donner accès à la réparabilité, à la durabilité, à l'entretien des biens.
Bon, voilà. Et ça, c'est une notion importante, là, la réparabilité. C'est-à-dire que aujourd'hui, si par exemple on a acheté un appareil, comme je parlais d'un four micro-ondes tantôt, n'importe quel autre appareil du même type qu'on peut utiliser en cuisine ou ailleurs dans la maison, puis qu'on veut le faire réparer, il y a un fichu problème pour trouver des pièces de rechange. Et puis ça, c'est discontinué, on peut pas le faire. On se retrouve souvent pris avec des situations comme celle-là.
Tout à fait. C'est qu'au niveau même des réparateurs, ils n'ont pas les outils ou les logiciels nécessaires pour pouvoir réparer le bien. Bon, dans le cas d'un four micro-ondes, évidemment, c'est sûr que c'est pas... Et je ne pense pas que le four micro-ondes soit prévu dans la liste des biens qui... disons qu'on parle de produits domestiques. Et puis, effectivement, ça pourrait être... C'est le genre de choses qu'on va discuter, puis analyser surtout, je vous dirais, parce que comme je vous le rappelle, c'est un projet de loi. C'est pas, la loi n'a pas été adoptée. Donc, effectivement, ce sont des choses à... Ce sont des choses sur lesquelles on va se pencher, à savoir quelle est la liste des produits qui vont être pris en compte.
Madame Marget, est-ce qu'il y a des biens de consommation sur lesquels on a plus de doutes, sur lesquels la suspicion est plus forte à propos de l'obsolescence programmée?
Ben, je vous dirais surtout, je pense, en tout cas, tout ce qui est appareil électronique, là où il y a beaucoup de... Je vous dirais que même si vous essayez vous-même de l'ouvrir, vous n'y comprenez rien parce que c'est compliqué, c'est miniaturisé. Bon, on va prendre le cas des cellulaires. Dans le cas des cellulaires, en fait, des téléphones intelligents, c'est surtout sur la mise à jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou vos auditeurs ont remarqué ça, mais quand on fait, il y a assez souvent des mises à jour à faire et plus on fait de mises à jour et plus notre téléphone devient lent. Donc, s'il devient lent, on s'en lasse et ce qu'on a envie de faire, bah, c'est de le changer. Mais on le change au bout de 3-4 ans. C'est rare qu'on reste 10 ans avec un téléphone intelligent, par exemple. Alors après, le moyen qu'ils ont, effectivement, ou le fait de prouver que, effectivement, c'est de l'obsolescence programmée, comme je vous dis, c'est très difficile quand même à démontrer. Voilà.
Est-ce qu'il y a des cas où on a réussi en cours devant un tribunal à démontrer de l'obsolescence programmée?
Pas à ma connaissance.
Dans ce contexte-là, on a beau adopter une loi éventuellement, peut-être d'ici la fin de l'année, par exemple, est-ce que ça va changer réellement quelque chose? Si on n'est pas capable de prouver qu'un fabricant, de façon voulue, a planifié de l'obsolescence programmée, il me semble que ça va être difficile de tirer profit de cette loi-là.
Ben, je vous dirais, moi, ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que dans cette loi-là, il y a aussi favorisé la durabilité, la réparabilité et l'entretien des biens. Et en premier lieu, effectivement, une des mesures, c'est d'interdire l'obsolescence programmée. Il faut bien commencer à quelque part. Donc nous, on trouve qu'effectivement, à la coalition, c'est une bonne chose qu'on commence à en parler avec un dépôt de projet de loi à l'Assemblée nationale.
Et de toute façon, peu importe la suite des choses, si la loi est adoptée, ça va mettre de la pression sur les fabricants, c'est presque inévitable.
Exactement, c'est inévitable, effectivement, parce qu'il y a quand même, dans ces mesures, vous en parliez, il y a quand même une garantie de bon fonctionnement. Donc si c'est inscrit dans la loi, alors évidemment, ça va être dans ce projet de loi-là, il y a effectivement beaucoup de points qu'il va falloir déterminer par voie réglementaire. C'est pour ça qu'il faut qu'on attende pour voir ce qui va être décidé, notamment sur la durée minimale de fonctionnement ou encore la durée raisonnable. Donc ça, tout ça, ça va être défini par voie réglementaire.
Laurence Marget, vous êtes directrice générale de la Coalition des associations de consommateurs du Québec. Merci d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, merci à vous.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.